Maintenant, Charles-Philippe David est avec nous de l'Observatoire sur les États-Unis et fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Charles-Philippe, quand tu as vu ces images-là hier, là, c'était une mise en scène théâtrale, le procureur William Barr qui vient comme un général surveiller ses troupes et après ça, la police qui nettoie la place pour permettre au président de se déplacer.
Trump a jeté de l'huile sur le feu, Paul, et en rien depuis le début de cette crise quand même très grave, ne semble vouloir tendre la perche à la communauté afro-américaine et peut-être se comporter comme un président des États-Unis. Actuellement, il est le président des États désunis et il aggrave considérablement la situation. Et en invoquant, comme le disait Richard, cette très, très, très vieille loi de 1807 qui a été utilisée sporadiquement par les prédécesseurs de Donald Trump, mais avec l'accord des gouverneurs des États américains, là, sans leur accord, Trump risque d'accroître les divisions, la polarisation. Et je le rappelle, Paul, sur fond quand même de campagne électorale dont on a peine à parler, mais qui finira bien par survenir, ça augure rien de bon, selon moi.
On va en parler de l'élection dans les 5 mois qui viennent, là. Mais juste avant, peut-être si on faisait une mise en contexte, parce que c'est pas la première fois là, qu'on a des manifestations suite à des incidents raciaux, suite à la mort d'un homme noir. Quelle est la différence, selon toi, entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé, par exemple, quand Rodney King a été battu et les émeutes qui ont suivi à Los Angeles?
C'est une très bonne question. Je pense que c'est un niveau d'intensité qu'on n'a pas atteint depuis 1992. D'ailleurs, moi, j'étais sur place à Los Angeles lors de ces émeutes de 1992 et c'est très vrai, Paul, que tout cela rappelle ce vieux souvenir. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une cinquantaine, voire plus, de villes américaines sont aux prises avec, au fond, le même problème, celui du racisme structurel qu'on retrouve très, très, très intégré ou très répandu au sein des forces policières. Et même celles-ci, d'ailleurs, sont divisées quant à la façon de réagir aux manifestants et suite à cet effroyable meurtre. Donc, je vous dirais, c'est vraiment probablement qu'aujourd'hui, vraiment, la situation s'est tellement envenimée que ça prenait une allumette pour embraser cet incendie que l'on observe à la grandeur du pays.
Parce que d'ici, on a de la difficulté, à comprendre ce que veut dire le racisme. J'ai déjà parlé à l'époque du procès d'O.J. Simpson avec un avocat à Los Angeles qui disait « Vous ne savez pas ce que c'est que le racisme aux États-Unis. Le racisme se vit à visage découvert dans le quotidien. Ce ne sont pas des gens cachés. » Ça ne s'exprime pas de façon très, très à huis clos, confidentielle. C'est pour des gens, là, une façon de vivre tout simplement d'être raciste.
Et c'est que le racisme aux États-Unis connaît vraiment, vraiment une intensité sans doute qu'on ne connaît pas ici, pas en tout cas à ce niveau-là, en raison du degré de violence, de la disponibilité des armes à feu et surtout de la réaction policière. Alors, tu sais, dans un pays qui a connu une guerre civile qui notamment a été causée par l'esclavage, c'est quelque chose qui reste très, 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 très sensible et très répandu aux États-Unis. Et c'est pas vraiment une surprise que tout cela survienne. Les avertissements avaient été prononcés souvent sur le fait que le problème n'était pas réglé. Et évidemment, la présidence de Trump n'a rien arrangé par son soutien et parfois même ses déclarations favorables aux suprémacistes blancs.
Bon, parlons de l'élection. C'est en novembre, dans quelques mois. Politiquement, Trump arrive à se placer de quelle position avec ce genre de discours d'hier? Est-ce qu'il demeure populaire? Est-ce qu'il a encore sa base? Quel est, à ce stade-ci, disons, le portrait de la course à la présidence?
Ben, allons droit au but, Paul. Je pense que Donald Trump essaie de distraire maintenant toute cette crise de la pandémie qu'il a très mal gérée, distraire l'opinion publique avec des déclarations et des positions extrêmement fermes, polarisantes face à cette violence, pour que l'enjeu électoral ne soit plus ou ne soit pas la crise de la pandémie, voire même pas la crise économique épouvantable que vivent les Américains, mais la crise de loi et de l'ordre, comme vous le dites. Cela nous rappelle 1968, et oui, il faut faire attention aux comparaisons, mais quand Nixon a dit « la majorité silencieuse aux États-Unis veut de l'ordre, veut la paix dans les rues, je suis le président qui peut l'ordonner », pariez-vous que Donald Trump va tenter par tous les moyens de se présenter comme le président des États-Unis qui peut répéter l'exploit de Nixon en 1968 et représenter cette majorité silencieuse, surtout blanche, qui veut que la loi et l'ordre soient rétablis dans les rues. Mais en même temps, il est vrai de dire que les divisions vont s'accentuer et que s'il n'est pas capable de gérer cette crise et qu'il est jugé même responsable de l'aggraver, alors les démocrates ont des chances peut-être de faire des gains importants auprès de l'électorat blanc dans les États clés qui feront la différence de l'élection le 3 novembre prochain, Paul.
Merci beaucoup. Bonne journée, Charles-Philippe David, président de l'Observatoire sur les États-Unis, aussi professeur donc à l'Université du Québec à Montréal.